Dualisme. Très jeune, Coralie dressa des listes. Au début, dès qu'elle sut à peu près écrire, c'était pour faire comme maman, sans trop savoir à quoi cela pouvait servir. Mais par la suite, elle s'aperçut qu'il suffisait de noter un paquet de biscuits au chocolat, une demi-douzaine d'œufs, un kilo de bananes, quatre steaks, avant de partir au grand magasin pour en revenir avec toutes les choses inscrites sur la liste. Enfin presque, parce qu'en cas de rupture de stock, il fallait reporter le produit manquant sur la liste de la semaine suivante. C'est donc petit à petit, au fur et à mesure de contingences ménagères, qu'elle comprit le sens premier de la liste, tout comme sa grande utilité organisationnelle. À l'âge prépubère, elle s'aperçut qu'une liste pouvait avoir d'autres fonctions, plus à même de la faire avancer sur le chemin de sa vie. Et notamment la double liste nommée comparative par les érudits. Chacun fait comme il veut, mais en général, les plus sont couchés sur la partie gauche, les moins sur la partie droite. Comme elle y voyait de nombreux avantages, Coralie se mit à lister tout et n'importe quoi, en excluant cependant les classiques pense-bêtes du débutant, jugées à l'image des listes d'achalandage, peu conformes, pour ne pas dire vulgaires, à la bonne pratique de ce qu'elle appelait une discipline de vie. En revanche, les autres utilisations lui permirent d'avoir, outre de précieuses informations sur de nombreux sujets, une conduite à tenir face à de multiples situations. Elle n'oublia pas le fameux blacklistage qui permet d'écarter bien des désagréments quand on aspire à la tranquillité. Dès lors, sa vie fut ponctuée de listes dressées à chaque étape nouvelle. Véritable trésor qu'elle consultait toujours et qui guidait son comportement suivant les situations. Ainsi, toutes ses réflexions s'inspiraient de listes. Bien sûr, comme tous les addicts, elle avait des préférences. Une liste fétiche, sorte de liste principale, dépoussiérait sa pensée car elle énumérait, en gros, tous les choix qu'elle devait prendre ou ne pas prendre. Elle la suivait comme un code moral, persuadée qu'elle devait obtempérer à la lettre que ce guide était nécessaire. Sa jeune vie se réglait ainsi pour à peu près tout. Cette fameuse fétiche et principale, synthèse de ses expériences, observations, pensées et réflexions, avait pour elle un sérieux avantage, la simplicité. Une version moderne et épurée du journal intime, trop confus, trop figé, pas assez réactif. Évidemment, pour des problèmes de commodité, une multitude de listes annexes affinait chaque situation. Coralie avait un avis sur tout, prenait ses décisions au quart de tour et s'était mis à dos une bonne partie de son entourage. Aussi chiante qu'un corbeau, Bible en main, qui vous explique tout et parfois son contraire, en vous certifiant que le plan qu'il vous propose est le bon. Tout ça sans vous connaître. Mais Coralie n'y voyait que des avantages. Pourtant sa rigidité, son dogmatisme, son autorité éloignaient les contradicteurs qui la fuyaient au bout de quelques phrases en haussant les épaules. Elle avait donc raison à finir par le croire. Cette dernière phrase n'est compréhensible que pour les poètes. Et ça ne s'arrêtait pas, jusqu'au jour où. Il faut dire, avant de poursuivre, que sa vie était, avec les faits précités, devenue d'une monotonie crasse. Tous ses mouvements formatés, toutes ses pensées arrêtées, toutes ses conquêtes prévisibles, toutes ses emplettes identiques, une longue programmation de gestes incontournables pour Coralie, nécessaire à son équilibre. Des petites listes, encore des petites listes, issues d'autres listes, elles-mêmes synthèses de listes croisées par d'autres, listes enchevêtrées au point d'en perdre le fil et de devoir improviser avec la conviction de ne pas le faire. Mais le mal était acté, la jeune femme ne répondait plus qu'à une logique bizarre qui avait fini par la dépasser. Elle ne se vêtait que dans les tons de beige, origine vieille liste du temps de la fac, ne roulait que dans les voitures vertes, liste retour d'Irlande, ne fréquentait que des blonds aux yeux bleus, liste canon de la beauté fusionnée par la suite avec la liste ma préférence à moi, elle-même fait encore avec la liste mon type d'homme idéal. N'avait jamais de talons supérieurs à 8 cm, liste comment vivre en bonne santé, ne se nourrissait que de végétaux biologiques, adjonction sur la liste précédente, lisait au moins un livre par mois, liste comment ne pas mourir idiote, allait à la messe toutes les semaines, liste conduite à tenir pour faire de belles rencontres, et jurait, peut-être un peu trop fort pour le croire vraiment, que jamais elle ne dérogerait aux règles. Ainsi elle ne pourrait pas tomber amoureuse d'un homme qui n'avait pas les mêmes goûts, les mêmes envies, ci-dessus dressé en bonne et due liste. Coralie s'était bâti une structure très codée, persuadée qu'alors sa vie serait plus facile, qu'elle se déroulerait sans désagrément majeur, qu'elle en aurait le contrôle. À ses yeux, le monde se divisait en parts presque toujours incompatibles entre elles. En choisissant les bonnes parts, tout en ignorant les autres jugés antagonistes, tout bougeait, in fine. Il suffisait de rester dans son camp et de s'y tenir quoi. Sa méthode était la bonne. Elle y croyait dur comme carbure de tungstène et se laissait à penser que le monde serait mieux géré avec des listes. Chemin faisant, patiente en diable, elle attendait son alter ego. Tôt ou tard, le prince charmant pointerait le bout de son nez et, comme qui se ressemble s'assemble, il ne pourrait en être autrement, elle serait heureuse avec beaucoup d'enfants. Les bases étant posées, voici la suite de l'histoire. Je disais donc, il n'y a pas très longtemps de ligne, et ça ne s'arrêtera pas jusqu'au jour où. Quand Hugo rencontra Coralie à une soirée, il la trouva hautaine, prétentieuse, avec ce côté autoritaire qu'il n'aimait ni chez les femmes ni chez les hommes. Outre le peu d'affinité culturelle, son physique lui apparut quelconque, sa conversation entendue, ses avis tranchés et définitifs. Dogmatique sur tout et n'importe quoi, il se demanda même d'où pouvait sortir cette fille, de quel pays étrange. Il vit une autocrate craignos et en voulut au hasard. Comme Coralie gravitait autour d'un groupe où sa sœur cadette jouait un rôle majeur, puisqu'elle en était l'héroïne, désolé, j'ai pas d'autres informations, Hugo eut souvent l'occasion de croiser cette grande fille dégingandée qui ne lui inspirait que de l'indifférence. Sans aller jusqu'au recul ou une quelconque répulsion qui l'eût poussée à quelque vacherie. D'ailleurs, après plusieurs sorties communes, il fut surpris par sa propre attitude plutôt amène à l'égard de Coralie. D'un naturel curieux, à force de l'observer de loin, il sentait bien que derrière la forteresse bien protégée, des fragilités secrètes gisaient, tapies aux confins de son subconscient. Elles l'intriguèrent suffisamment pour qu'il s'y penche et souhaite davantage livrer connaissance. Vint cette soirée dite entre amis où ils se retrouvèrent l'un près de l'autre, un verre à la main. Silencieux et tranquille, mais assez détendu. De verre en verre, ils se désinhibèrent. Les vapeurs chassèrent les a priori au fil d'échanges, de propos sans grands intérêts. Au petit matin, leurs regards ne firent qu'un. Le temps de sentir qu'au fond, tout n'est pas si simple, les causes ne sont pas entendues, les chemins tortueux, les âmes biscornues. Hugo put alors proposer un point de vue sur la vie en général et l'œuvre que chacun devait bâtir en son sein. Un point de vue qui perturba suffisamment Coralie pour qu'elle le prenne au sérieux dans un premier temps, puis qu'elle y réfléchisse dans un second temps. « Tu ne peux pas, lui avait-il dit, t'en tenir à des listes, car même si le jour de leur création elles sont fondées, avec le temps et le monde en mouvement, leur approche est forcément parcellaire. Elles deviennent des a priori branlants, des fantômes du passé en quelque sorte. C'est un peu comme si tu te contentais de suivre un tableau Excel, un algorithme ou toute autre forme d'artifice qui n'ont rien à voir avec l'intelligence et qui, au fil des mises à jour automatiques, s'éloignent de la réalité. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas de figure, tes listes oublient l'essentiel, à savoir la réflexion et ce qu'elle sous-tend de remise en question au fil de notre évolution. Le monde est ainsi fait, tout semble identique et pourtant rien n'est figé, le temps change les angles de chasse. » Hommage à Robert de Goulet. « Tu as peut-être raison, lui avait-elle répondu. Peut-être ? Oui, peut-être. Pour moi, tout semble figé, précisément. Rien ne bouge, le monde s'endort, refait la même histoire et l'incidence que je pourrais représenter est nulle. C'est un autre sujet, il ne s'agit pas du monde, mais de toi. Je connais un boulanger déjà ouvert, on va chercher des croissants ? Sauf si tu penses qu'il y a une contradiction psychosomatique ou somatopsychique. » Coralie, détendue, un peu grisée, s'était mise à rire. Ce rire fut le début d'une autre histoire. Rédhibitoire pour elle. Comment d'emblée apprécier un fouteux, petit, trapu et apparemment mi-homme, mi-bête. Le poil méditerranéen n'avait aucun attrait pour elle. Le seul point qui lui sembla positif était l'absence de joncaille. Pas de gourmette, ni de tour de cou en or avec l'inscription d'usage « Maman, je t'aime ». En apparence, il émanait de Hugo un grand désordre. Son comportement cavalier, direct, sans artifice, la choquait parfois parce qu'il ne prenait jamais de gants pour s'exprimer et le faisait sans aucune diplomatie, sans se soucier de vexer, ou pas, son interlocuteur. Sa dégaine bizarre de mauvais garçon était tout aussi gênante pour Coralie. L'aspect peu soigné, presque négligé, le côté rouleur des types en forme et qui s'engaussent n'avait pas grand attrait pour elle. Ajoutez à cette liste peu glorieuse des occupations improbables, type bouffe bruyante entre potes, troisième mi-temps ou tout bonnement spectacle sportif, avec commentaires interminables à la clé. Pourtant, malgré tout, elle n'éprouvait aucun recul. La petite gêne qui vous fait passer vite fait votre chemin. Bien au contraire, elle gardait le contact avec ce groupe en spectatrice et se surprenait à observer, plus que de raison, ce garçon au physique sans intérêt, sans charme. Un petit quelque chose, une espèce de magnétisme l'intriguait, l'invitait à ne pas le fuir, ne pas lui tourner le dos sans savoir, comme un besoin de découvrir ce qui se cachait derrière le décorum. En fait, Coralie cherchait les raisons à un penchant qui n'en a pas, de raison. Le hasard qui a bon dos fit qu'ils se virent souvent. De là à approfondir leur relation, il n'y avait qu'un pas. Ils le franchirent une certaine nuit trop arrosée, tous les deux, sans qui d'âme alentour, et scellèrent une suite au récit en bouffant des croissants trop chauds. Que croyez-vous qu'il advint ? Ils se marièrent et eurent quelques enfants qu'ils éduquèrent pour prêcher les bonnes paroles, l'esprit de famille et la tolérance. Nul ne peut prévoir où et quand son autre côté, obscur ou pas, décidera de son sort. Jamais rien ne se passe comme prévu. Tenez-vous-en aux listes de courses.